Bonsoir. Le journaliste congolais Stanny Boujakera a quitté la prison de Makala hier après 6 mois passés dans cette maison carcérale. La veille, le tribunal l'avait reconnu coupable et l'avait condamné à 6 mois de prison et une amende dans le procès qui l'accusait de propagation de faux bruits, falsification et faux en écriture, notamment dans le rapport de l'ANR sur la mort de l'ancien ministre Chérubin Okende. De nombreux observateurs et organisations de défense de la presse rejettent la condamnation de Stanny Boujakera et parlent notamment d'intimidation et règlement de compte. Une situation qui se déroule alors que la problématique de la dépénalisation des délits de presse reste toujours entière. Quelle lecture faire de cet épisode de l'affaire Stanny Boujakera? Où en est-on aujourd'hui avec le projet de dépénalisation des délits de presse en République démocratique du Congo? Et que faut-il faire pour espérer y arriver? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous serons avec Gabi Kouba, président de l'Union nationale de la presse de la République démocratique du Congo, UNPC en sigle. Gabi Kouba, bonsoir.
Bonsoir Dona Madimba, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Dans ce débat également, Aubert Mibaketcha, bonsoir.
Bonsoir, chef Dona Madimba, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Kapi.
Aubert Mibaketcha, vous êtes coordinateur de la synergie des médias pour l'Union des forces, Simouf, maison de la presse, et directeur de la radio Metanoia FM à Uvira, dans la province du Sud Kivu. Et enfin, Charles Mushizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, également spécialiste du droit de la presse et de la lutte pour la dépénalisation des délits de presse. Charles Mushizi, bonsoir.
Il faut préciser également que Aubert Mubakisha est président sectionnaire de l'UNPC Uvira.
Merci. Est-ce que Charles Mushizi, vous êtes avec nous ce soir? Il va certainement nous rejoindre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vous l'avez entendu, le journaliste congolais Stanny Boujakera a quitté la prison de Makala hier après 6 mois passés dans cette maison carcérale. La veille, le tribunal l'avait reconnu coupable et l'avait condamné à 6 mois de prison et une amende dans le procès qu'il accusait de propagation de faux bruits, falsification faux en écriture, notamment dans le rapport de l'ANR, l'Agence nationale des renseignements de la République démocratique du Congo, sur la mort de l'ancien ministre Chérubin Okende. De nombreux observateurs et organisations de défense de la presse rejettent la condamnation de Stanny Boujakera et parlent notamment d'intimidation et de règlement de compte. Les détails avec vous, Kelly Nkouté.
Stanny Boujakera a été condamné lundi 18 mars à 6 mois de servitude pénale. Il a été reconnu coupable de falsification, contrefaçon et faux en écriture au sujet des rapports attribués à l'ANR sur la mort de Chérubin Okende, ancien ministre de Transport et député national. Bien que libre, l'ONG Journaliste en danger regrette cependant la condamnation injuste de Stanny Boujakera à 6 mois de prison. Elle constate que toutes ces accusations n'ont jamais été prouvées tout au long de ce procès, raison pour laquelle ses avocats avaient plaidé pour son acquittement. Pour Journaliste en danger, le grand écart entre les 20 ans de prison et 7 500 $ d'amende requis par le procureur et les 6 mois de prison et 400 $ d'amende prononcés par le tribunal démontre bien que le dossier de l'accusation était vide et basé seulement sur la mauvaise foi du ministère public et sa volonté d'épunir Boujakera et servir des leçons aux autres journalistes, comme il a lui-même déclaré au cours d'une audience publique, explique GED. Les circonstances de l'arrestation de Stanny Boujakera le 8 septembre 2023 à l'aéroport de Ndjili, sa longue détention à la prison centrale de Makala et sa condamnation malgré la pression de la communauté internationale qui n'a jamais cessé d'exiger sa libération constituent des graves atteintes à la liberté de la presse et d'expression qui placent désormais la RDC parmi les pays les plus dangereux au monde pour les journalistes conclut Jade.
Vous l'avez certainement compris dans l'introduction de notre magazine de ce soir, l'environnement de l'exercice de la presse en République démocratique du Congo est régulièrement sujet à des débats et à des polémiques sur la capacité des journalistes à être libres et leur tranquillité à travailler sans être inquiétés pour ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils mettent devant le public. Et nous allons donc ce soir interroger un peu où en est-on aujourd'hui avec ce gros projet, ce gros débat de ne pas mettre les journalistes en prison parce que ils font leur métier de journaliste pour ce qu'ils disent en tant que journaliste dans leurs médias ou qu'ils produisent dans leurs médias, la fameuse problématique de la dépénalisation des délits de presse en République démocratique du Congo. Mais comme le prétexte qui nous amène aujourd'hui, c'est bien évidemment l'affaire Stanny Boujakera. Nous allons évoquer très rapidement cette question. Gabi Kouba, président de l'Union nationale de la presse de la République démocratique du Congo, nous connaissons plus ou moins votre point de vue sur l'affaire Stanny Boujakera. Vous avez longuement dénoncé l'arrestation de ce journaliste et justement pointé le doigt l'absence justement de la dépénalisation des délits de presse. Aujourd'hui, cette affaire est arrivée à son dénouement. Votre lecture.
Merci beaucoup pour cette pertinente question. D'ailleurs, vous l'avez très bien souligné, nous étions choqués, indignés et attristés par l'arrestation du journaliste Boujakera Chamara depuis l'année dernière. Et je tiens en tout cas à saluer le travail qui a été mené par toutes les associations professionnelles des médias, à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays. L'UNPC, à travers ses démembrements, dont le Rassemblement pour les journalistes pour l'émergence du Congo, qui a fait un travail de pression, parce que nous sommes un syndicat, nous sommes aussi un groupe de pression, et nous sommes une association qui défend la liberté de la presse. Donc, nous, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, nous, l'Union nationale de la presse du Congo, dans les attributions, c'est de défendre, nous avons parmi nos attributions, nos missions principales, c'est la défense de la liberté de la presse et du journaliste. Et ce qui est arrivé à notre confrère est déplorable, cela nous a beaucoup inquiétés, nous a même agacés. Et vous avez vu qu'il y a eu des manifestations, ce n'est pas pour faire fléchir la justice, mais nous voulons la liberté, car dans une société ouverte et démocratique, la liberté de la presse doit être garantie, la liberté d'expression doit être garantie. Et d'ailleurs, je tiens à le rappeler ici, le président Tshisekedi lui-même reste très très attaché à la liberté de la presse. Nous n'avons jamais vu dans l'histoire de la République démocratique du Congo un président aussi tolérant et aussi attaché à la liberté de la presse. Rappelez-vous, lors de toutes nos activités, depuis son accession à la magistrature suprême, il a toujours été avec nous. Et le dernier cas, le plus éloquent, c'est l'organisation des états généraux de la communication et médias, même si cela était de la compétence du gouvernement, mais la partition que l'Union nationale de la presse du Congo et les autres structures de médias ont joué a été, en tout cas, très importante. Et le président de la République était avec nous à l'ouverture comme à la clôture, lui-même a présidé personnellement ces assises.
Mais Gabi Kouba, nous allons revenir tout à l'heure à l'implication des pouvoirs publics et des autorités de la République démocratique du Congo tout à l'heure dans la question justement de la dépénalisation qui est souhaitée depuis des années et qui n'a jamais été accomplie. Mais très rapidement, votre réponse concernant le procès ou l'affaire Stanny Boujakera, il a été épinglé notamment sur une question de faux, de falsification, de possession, entre guillemets, illégale de certains documents. Est-ce que cela a été, pour vous, des griefs suffisants? Et est-ce qu'à la fin, vous avez l'impression que le ministère public a pu démontrer plus ou moins que ces accusations pouvaient s'appliquer à Stanny Boujakera?
D'abord, la justice élève une nation. Ce qui est arrivé à Stanislas Boujakera Chamara nous a beaucoup indignés. Et les faits, vous connaissez aujourd'hui, parce que la justice s'est interdit même aux gens de commenter les conclusions de l'enquête ou de l'autopsie sur l'assassinat de Chérubin Okende. Mais quand vous suivez attentivement les déroulements des faits, Mais Boujakira a aujourd'hui raison. La preuve est qu'il a été relâché. Nous ne pouvons pas dire que la justice l'a relâché parce qu'il y a eu des pressions. Mais au regard des éléments en possession de la justice, nous avons en tout cas assisté à une sorte d'acquittement. Ce qui donne raison à Boujakira. Sans entrer dans les détails de tout ce qui pouvait se passer à gauche ou à droite, mais nous avons émis des sérieux doutes. D'ailleurs, le travail, comme ce n'était plus au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo avec les tribunaux des pairs, c'était au niveau de la justice. Les avocats l'ont démontré que le journaliste Stanislas Boujakira Tchamara était pratiquement dans l'impossibilité et dans l'incapacité de falsifier les documents des services spéciaux, les sceaux, les services de renseignement et qu'on soit, comment un journaliste, même si pour des raisons inavouées, on peut tronquer des faits, on peut bidonner des informations pour telle ou telle autre raison, mais pas jusqu'à ce niveau. Mmh. En tout cas, dans Merci. L'histoire de notre pays, même si ailleurs ça pouvait se passer, mais c'est un cas surprenant et étonnant. C'est ce qui a révolté la corporation.
Merci. On reste avec vous, président Gabi Kouba, président de l'Union nationale de la presse de la République démocratique du Congo. Aubert Mibakecha, coordinateur de la synergie des médias pour l'Union des forces. Simouf, maison de la presse et directeur de la radio Metanoia FM à Uvira, dans la province du Sud Kivu. Beaucoup de commentaires affirment que si Stani Boujakira est aujourd'hui libre, 6 mois après, alors que son procès, le verdict de son affaire au tribunal se conclut aussi par 6 mois de condamnation, c'était juste une manière de corriger, voire de reconnaître qu'on n'aurait pas dû l'arrêter déjà depuis longtemps et qu'il méritait 6 mois après la relaxe.
Oui, confrère Donald Madinga, je crois que la justice, effectivement, avait compris que notre confrère Stani n'y était pour rien. Donc, en tout cas, pour moi, il était emprisonné pour des pièces qui ne tiennent pas debout. Vous savez, cette affaire Donald, pour moi, a causé la honte pour mon pays, la République démocratique du Congo. Vous savez, les actes qu'on compose envers des journalistes dans ces pays devaient même refléter les noms de notre pays. Nous appelons République démocratique du Congo. On ne peut pas avoir un pays démocratique où il n'y a pas la liberté de la presse. Comment arrêter un journaliste de cette manière-là, 6 mois en prison, les priver de tous ses droits, les mettre en dehors de sa famille, les mettre en dehors même de ses auditeurs? Mais ce n'est pas vraiment normal. Ce n'est pas normal. Moi, je crois que c'est une façon d'intimider la presse, de museler la presse, pour qu'on ait toujours peur d'aborder tout sujet ou toute question d'intérêt public. Voilà pourquoi nous demandons toujours dans ces pays la dépénalisation des délits de presse.
On va y arriver. Combien de personnes... On va y arriver tout à l'heure à cette fameuse problématique de la dépénalisation.
Beaucoup de personnes.
Oui, vous gardez la parole. Mais justement, durant toute son affaire, Stani Boujakira, qui était accusé de tenir des documents de manière illégale, si ce n'était pas le cas, pourquoi n'a-t-il pas brandi les documents attribués à l'ANR et qui étaient évoqués dans l'article qui lui était à lui attribué?
Non, et écoutez demain, comme moi-même à un certain moment j'étais là à Kinshasa où on était en train de lui demander, c'est pas des documents à caractère original, tout ça, mais lui il s'est dit, mais c'est moi, est-ce que c'est moi? Bon, est-ce que moi je dois avoir, alors je dois trouver des documents? C'est vous plutôt qui allez alors chercher des documents authentiques. C'est vous qui allez chercher même les cachets authentiques. Imaginez, vous, on était en train de lui demander bon, les cachets, les documents, tout ça avec un cachet authentique de l'ANR. Mais où est-ce que lui il devait avoir ça? Bon, vous voyez que, en tout cas, dans toute cette affaire-là, vous allez voir que apparemment il y avait l'interférence de la politique. Avec l'interférence de la politique, on ne peut pas vraiment dire que les chauffeurs étaient arrêtés vraiment pour de vrais motifs ou des motifs qui tiennent debout.
Merci Aubert Bibakecha, vous restez dans le débat avec nous aussi. Gabit Kouba, on revient à vous tout à l'heure. Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, également spécialiste des droits de la presse et de la lutte pour la dépénalisation des délits de presse en République démocratique du Congo. Vous avez plus que nous, hein, dans ce casting de ce soir, plus que nous tous, l'habitude des plaidoiries et des réalités des procès en tant qu'avocat. Qu'est-ce que vous pensez de ce feuilleton, de cette affaire Stanley Boujakera?
De ce feuilleton, je retiens une certaine expérience. Je commence par une question posée au ministère public de savoir, tendant à savoir comment il est entré en possession du document qu'il impute, qu'il imputait à mon client. Il a été évasif, il a dit rien ne l'empêchait d'entrer dans les bureaux officiels de l'État pour éventuellement y recueillir des documents dont il a besoin. Non, c'est pas de cette manière-là que un procureur répond, parce que le procureur n'agit que par des réquisitions d'informations lorsqu'il a besoin d'obtenir un document détenu par des tiers. Il se fait que par la suite, à la question de savoir si ce document était imputable à mon client, l'expert nommément désigné par le tribunal a dit qu'il n'était pas possible pour lui d'établir ce lien et que donc ce document, pour nous, était totalement tiers et tout à fait en marge de la personne qui était accusée, à savoir Stanis Boujakera Tshamala. Et ces questions ont été fondamentales pour moi et ont été suffisamment diverses, notamment pour ce qui est des réponses qui ont été réservées et qui prouvent à suffisance que l'accusation était fondée plutôt sur un acharnement, sur une intention de punir et à la limite sur un excès de pouvoir concentré entre les mains du parquet. Et c'est pour cela que je suis en train de m'atteler sur la réforme de notre système de justice, notamment pour ce qui est des aspects pénaux. Le même ministère public qui conduit l'instruction préjuridictionnelle, c'est le même ministère public qui a le pouvoir d'instruire à charge et à décharge, et donc qui vient devant le tribunal pour instruire à charge. C'est le même ministère public qui est en charge de l'exécution des peines prononcées par les juridictions répressives. C'est le même ministère public qui surveille l'exécution des jugements pénaux. Et c'est le même ministère public qui surveille la prison. Et c'est trop, à mon avis, et c'est tout ça qui fait que, à un certain moment, on ne peut pas s'attendre à une justice véritablement juste et équitable, parce que dans les attributions du ministère public, il y a vraiment des pouvoirs qui sont à la limite contradictoires et même conflictuels. Il faut peut-être penser un jour à ce que nous ayons, comme le proposait le professeur Akel est de très heureuse mémoire, un parquet d'instruction avant un parquet d'accusation. Et que par la suite, il y ait même un parquet d'application des peines. C'est pour faire la différence entre autant de pouvoirs concentrés entre les mains d'un tel ministère public et qui a tendance à en abuser. Et donc, un système de contrôle, un système tout à fait démocratique établi par la loi, qui puisse faire en sorte que les limites de pouvoir des uns et des autres soient clairement établies pour éviter l'arbitraire et même l'injustice. Lorsque nous prenons l'instruction telle qu'elle s'est passée au parquet, telle qu'elle s'est passée devant le tribunal, et telle qu'elle s'est finalement déroulée jusqu'à présent, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de cohérence du point de vue ontologique dans la conduite des affaires judiciaires dans un État qui se réclame d'une certaine valeur démocratique. Et c'est cette incohérence qui fait que par moment, notre justice aboutit à des décisions qui ne résistent pas à la moindre critique scientifique et qui ne peuvent pas réellement servir comme base jurisprudentielle pour des juridiques, pour des générations à venir, pour s'y référer en tant que valeur juridique judiciaire établi.
Alors,
à ce jour, ce qui est important, c'est de réfléchir en termes de réforme. Et le cas Stanis Boujakera doit servir comme un projet pilote démontrant clairement les limites qui caractérisent l'instruction jusqu'à l'exécution des peines prononcées par les tribunaux en matière répressive.
Merci Charles Mushizi. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete, également spécialiste des droits de la presse et de lutte pour la dépénalisation des délits de presse. Vous évoquez le cas Stanley Boujakera comme un cas qui doit servir de base de travail, mais le tollé, chaque fois qu'un journaliste est interpellé, existe de manière récurrente en République démocratique du Congo. Chaque fois qu'un journaliste est appelé devant la justice, les affaires comme Yves Bouya, Israël Mutombo, Peter Tiani, Perro Louara et d'autres peuvent être évoqués. Mais à côté de ça, il y a toujours eu cette réclamation de l'opinion congolaise et surtout des spécialistes ou des personnes intéressées comme vous sur la nécessité de ne pas amener les journalistes au tribunal à cause de ce qu'ils disent comme journalistes, à cause de ce qu'ils publient comme journalistes ou à cause de ce qu'ils produisent comme travail en tant que journaliste, ce qu'on appelle la dépénalisation des délits de presse. C'est un combat que vous menez depuis un certain temps. C'est pour ça que nous le collons aussi à votre profil ce soir. Où en est, selon vous, ce projet aujourd'hui? Y a-t-il des avancées, stagnation? Y a-t-il espoir que ce besoin permanent dans la société congolaise aboutisse?
Je vais peut-être être un peu incisif en relevant qu'aucune autorité aujourd'hui, du sommet au plus bas, n'est acquise au principe de la dépénalisation des délits de presse. Aucune. Tous les discours ont été faits et ce débat a commencé depuis 2002. À ce jour, il n'y a aucune systématisation dans l'arsenal juridique congolais du concept de dépénalisation, même si on ne le cite pas nommément, mais ne serait-ce que dans les mécanismes juridiques mis en place à travers les lois. J'ai proposé lors des états généraux sur la liberté de la presse, etc., un code de communication qui suggérer des réformes beaucoup plus holistiques. Aujourd'hui, les petites réformes tout à fait parcellaires de la loi de 96 pour l'ordonnance de 2003 et un statut de journaliste qui est resté intact depuis 81, avec un code pénal qui depuis 1940 sur le plan des incriminations n'a pas changé du tout, on ne peut pas avancer sur ce débat-là. Il faut un regard plutôt holistique, une réforme beaucoup plus globale qu'une simple loi sectorielle, et pour faire en sorte que la procédure, le code des procédures pénales tienne compte de cet aspect, le code pénal ordinaire tienne compte de cet aspect, le code pénal militaire tienne compte de cet aspect, la loi sur la presse elle-même tienne compte de cet aspect, la loi de 2011, la loi organique qui régit le CESAC, tiennent compte de ces aspects, pour qu'ensemble, on puisse avoir un dénominateur commun qui s'appelle la liberté de la presse à protéger en tant que matelas sur lequel ça soit une bonne démocratie. Sans la liberté de critique pour les médias indépendants, sans la liberté de recherche pour les journalistes qui veulent offrir à la population une information vérifiée, vérifiable, véridique, sans le droit d'accès à l'information, et il y a encore une loi qui traîne là-dessus pour être promulguée depuis pas mal d'années, il n'y a pas de possibilité de parler de dépénalisation. Ça se colle, c'est un point qui est à l'intersection d'autant de domaines, d'autant de secteurs, d'autant de textes de loi qu'il faut revisiter et qu'il faut avoir le courage de revisiter, parce que aujourd'hui, les meilleurs à se protéger, c'est le régime qui ne veut pas avoir de critiques contre lui. Et c'est pour cela que je dis, du plus haut sommet de l'État jusqu'au plus bas, il n'y a personne à ce jour qui est acquis au principe de la dépénalisation des délits de presse, parce qu'il a suffi simplement qu'on ait épinglé le nom d'un journaliste qui n'est du reste pas l'auteur de l'article incriminé, et personne ne l'a démontré, même pas la justice. Il a suffi simplement de cet acharnement pour que quelqu'un soit condamné. Et c'est exactement ce genre d'expérience que nous devons éviter désormais en prenant à bras le corps les réformes qu'il faut faire. Les réformes ne sont pas simplement textuelles, il faut mettre en place une synergie d'action interinstitutionnel entre le ministère des médias, qui est en charge de l'exécution des politiques gouvernementales en matière de médias de la communication, le CESAC qui régule, et les autres organisations, les structures qui interviennent, qu'elles soient professionnelles ou non professionnelles, dans le domaine de la liberté. Et maintenant, nous avons un code du numérique qui est de loi beaucoup plus rigoureux et qui semble être totalement ignorant de ce qu'est la liberté de la presse, au moment jusqu'à aller au niveau de prévoir des sanctions de suppression pure et simple, sans procédure, s'il vous plaît, des médias qui dérangent lorsqu'ils sont fautifs parce qu'il y a une autorité de régulation du numérique qui est mise en place, mais qui n'intègre ni le ministère des médias, ni le CESAC, ni l'UNPC, ni les autres structures de la profession, qui sont beaucoup plus acquises, qui comprennent beaucoup plus aisément le concept de la liberté de la presse. C'est pas des mots qu'il faut prononcer simplement, c'est un concept qu'il faut mettre en branle à travers des textes et à travers un mécanisme interinstitutionnel qui puisse être capable effectivement d'asseoir l'exercice de la liberté de la presse, de la critique des médias, surtout les médias indépendants, et de la recherche pour ces médias et pour les journalistes, sachant que le droit d'accès à l'information doit être aussi acquis pour ces gens pour qu'ils puissent fournir de l'information documentée. Et ce droit d'accès à l'information, malheureusement, n'est pas acquis non plus.
Merci Charles Mouchizi. Aubert Mibakecha, coordinateur de la synergie des médias pour l'Union des forces Simouf, maison de la presse et directeur de la radio Metanoia FM à Uvira dans la province du Sud Kivu. Généralement, les journalistes ou la presse est l'instance qui fait avancer, qui fait progresser les revendications dans la société. Beaucoup de choses partout à travers le monde ont été avancées, ont pu trouver des résultats, notamment grâce au travail de la presse. Avez-vous l'impression que la presse de la RDC et tous les groupes de pression qui ont demandé la dépénalisation des délits de presse jusqu'ici ont suffisamment fait ce qu'il fallait pour y arriver? Si oui, comment, selon vous, juste 20 ans plus tard, presque 30 ans plus tard, ce besoin de dépénalisation n'est pas toujours chose faite?
Oui, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore mis en application vraiment, parce que nombreux détenant le pouvoir de la mise en application de cette dépénalisation du délit de presse ont été des journalistes, d'autres des acteurs même de la société civile, et ils ont beaucoup milité pour la même cause. Mais aujourd'hui, ils ont complètement oublié cette lutte noble pour les biens de la démocratie dans notre pays. Donc, nous leur demandons de prendre le même courage qu'ils avaient avant de rentrer en politique. Vous savez, là où la presse travaille librement, il y a une contribution criante au développement du pays, à l'épanouissement même de la communauté, l'épanouissement des citoyens. Donc, ils sont appelés à avoir la bonne foi. Parce que c'est en fait qui bloque à leur niveau. C'est les politiques qui bloquent à ce niveau. Il y a des organisations de la société civile, des organisations de défense des droits des journalistes qui ont milité à peu près 20 ans maintenant. Mais il n'y a pas toujours de solution parce que là au sommet, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a la mauvaise foi. Est-ce qu'ils peuvent parvenir aussi à nous accorder cette protection à l'instar des médecins, à l'instar des infirmiers pour les fautes qu'ils commettent aussi dans les cadres de leur profession. Vous savez, Donat, combien de malades en situation même d'indigence sont abandonnés sur leur lit par les médecins, les infirmiers, pour n'avoir pas été en mesure de payer en avance les frais de soins. N'est-ce pas une non-assistance des personnes en danger, parce que ces malades parviennent même à mourir. Mais qui est ce médecin ou cet infirmier qui a déjà été poursuivi pour cette infraction, sans quitter beaucoup d'autres dégâts qu'ils commettent, mais ils travaillent en toute liberté. Donc nous sommes quand même les quatrièmes pouvoirs, tels que nous avait appelé l'homme politique et écrivain britannique Edmund Dick. Donc il faut à tout prix que les gens puissent prendre conscience, surtout ceux qui détiennent le pouvoir, pour que la dépénalisation le délit de paix se soit effectif dans notre pays.
Merci Aubert Bubakecha, Gabi Kouba, président de l'Union nationale de la presse du Congo. Dans certains pays où la dépénalisation est appliquée, par endroits on propose comme alternative des amendes à payer, et ailleurs c'est les préoccupations de la presse sont remises entre les mains du tribunal des pairs. J'ai comme l'impression que c'est que l'opinion de la presse ou les experts de la presse, la RDC, propose aussi aux autorités en République démocratique du Congo. Avez-vous l'impression que les autorités écoute cette demande? Si oui, pourquoi, selon vous, plusieurs années après, cette question de la dépénalisation n'est pas acceptée et mise en application à RDC?
Les autorités suivent les discours, mais elles ne passent pas à l'action. Mais la responsabilité est partagée. La presse n'est pas un îlot dans une société. Nous avons des responsabilités, des parties d'autres. Autant les gouvernements ou les institutions publiques ont une part des responsabilités parce que c'est l'État qui est censé réguler la vie en société. Autant également, nous, les associations professionnelles des médias, en commençant par la mienne, l'Union nationale de la presse du Congo, nous avons aussi failli à notre mission. Parce que si le tribunal des pairs, comme vous l'évoquez, regardez les pays scandinaves, où il existe par exemple des ombudsman dans des rédactions ou encore dans des structures des médias, mais ça marchait bien. C'est ce qui fait que les journalistes ne peuvent pas aller en prison dans la société. Mais il faut aussi le dire, ça va de pair avec l'éducation. Les gens sont éduqués et les lois de la République sont aussi respectées dans ces pays-là. Voilà pourquoi ça marche. Quel est le secteur qui marche mieux dans notre pays? Regardez la justice elle-même. Mais pour revenir sur la question du départ, les dossiers et Stanislas Boujakira, Tchamala. On rend la décision de justice et on interdit à quiconque de commenter. Comment pouvez-vous expliquer cela? Est-ce que nous voulons vivre dans une société à huis clos où tout se passe ni vu et ni connu? Heureusement que notre gouvernement n'a aucune capacité de contrôler Internet, des réseaux sociaux. Si on peut interdire des commentaires dans les médias classiques, aujourd'hui, avec Internet, il est difficile, dans un État comme le nôtre, de contrôler tout le monde. Parce que chacun peut poster son contenu là où il veut et à partir de là où il est. Alors, pour revenir à votre question, nous disons que autant l'État a échoué, autant nous aussi nous avons échoué. Vous et nous avons pris part aux États généraux de la communication et médias au mois de janvier 2022. Et vous savez ce qui a été dit. Il y a eu des réformes qui ont été proposées, mais des réformes ne sont pas que folkloriques. Ce n'est pas parce qu'on a voté une loi. Il y a une équipe qui est allée réfléchir au centre Nganda, dont moi-même, parce que c'est moi qui ai dirigé la commission sur la réforme des textes, la commission des textes, qui était l'une des commissions lors des États généraux de la communication et médias. 2 ans plus tard, il y a eu au moins 80 recommandations. Combien de recommandations a-t-on appliqué? Parce que la recommandation phare était l'organisation du congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Mmh. Mais là encore, ça pose un problème. Parce que c'est l'État qui a pris la ferme résolution. Nous, au niveau de l'Union, on nous avait demandé de faire ce que nous pouvions. Nous avons joué notre partition. Mais l'année dernière, nous étions presque en contradiction avec le chapitre qui concernait les discours du chef de l'État sur l'état de la nation concernant l'Union nationale de la presse du Congo. Nous avons été obligés de réagir par rapport à ce que le président de la République avait dit. Et plus de 2 ans après, parmi les 80 recommandations, je me pose la question, parce que moi-même je suis membre du comité de suivi, qui a cessé d'ailleurs d'exister. Hein? Le comité a été installé par un arrêté ministériel. Aucune disposition ne l'a abrogé. Ça fait plus d'une année que nous ne sommes plus réunis pour faire les points en regardant les tableaux de bord sur ce que nous devions faire, ce qui a été fait et ce qui restait à faire. Donc, la question de dépénalisation. Et d'ailleurs, lors des États généraux, les avis étaient largement partagés. Au regard de l'indiscipline, parce que la RDC, il faut que les choses soient dites clairement, nous sommes presque dans un capharnaüm. J'étais totalement opposé à l'idée
de la dépénalisation des délits des princes au regard de l'indiscipline qui nous caractérise tous. Les institutions publiques, parce qu'il y a des pesanteurs, il y a aussi des nostalgiques qui ne sont pas ouverts à la critique, qui ne sont pas soumis à l'exercice du contrôle citoyen sur la gestion du pays, et les journalistes sont considérés comme des témoins gênants. Mais là où j'étais aussi assez réticent concernant cette question de dépénalisation, c'est pour ne pas donner carte blanche à tous les mécréants et à tous ces mercenaires politiques qui se déguisaient en journaliste, mais j'avais un avis partagé là-dessus pour dire, voilà, moi je n'étais pas d'accord avec la dépénalisation. Si les structures comme l'Union nationale de la presse du Congo étaient renforcées et modernisées avec les moyens qu'il faut et les hommes qu'il faut, là où il faut, et une structure comme le CESAC aujourd'hui, il faut que les choses soient dites clairement. Je n'ai pas assez de critiques sur le CESAC, sur le fonctionnement du CESAC, mais suivez tout simplement comment les choses marchent là-bas. Si l'État, avec tous les moyens, parce que le CESAC, c'est une institution de l'État, institution d'appui à la démocratie, mais regardez son fonctionnement. Que dire de l'Union nationale de la presse du Congo, qui n'a pas de pouvoir contraignant sur les autres, en dehors de ses membres, même pour ses membres, que nous sommes tous, combien sont soumis aux sanctions, combien les respectent, parce que nous avons des faiblesses, je le reconnais. Et j'ai, moi en tant que président de la corporation, j'ai une lourde part de responsabilité. Je peux dire qu'à ce point, j'ai aussi échoué.
Donc, nous allons arriver tout à l'heure à des propositions.
Oui, pour revenir à votre question
sur
la dépénalisation, mais la dépénalisation veut qu'on ait une approche systémique. La justice fait correctement son travail. Nous, les associations ou l'association mère qui est l'Union nationale de la presse du Congo fait aussi son travail, les journalistes font le leur, les conditions économiques aussi. Qu'est-ce qui pousse la plupart d'entre nous, journalistes, à faire aujourd'hui les mercenariats? Mais les journalistes sont à la merci des politiciens. Sur les 100% des médias qui fonctionnent au Congo, je peux mettre ma main à couper que vous avez plus ou moins 98% des médias qui sont sous le contrôle politique. Or, ces médias-là ne sont pas considérés comme des entreprises de presse avec des moyens et avec des libertés d'informer, mais ce sont des caisses de résonance.
Merci, président. Nous reviendrons un jour dans une thématique sur la collusion entre journalistes et les sources. On y reviendra. Merci. C'est un sujet récurrent et très intéressant. Nous ouvrons maintenant le standard pour écouter nos nombreux auditeurs et tous ceux qui nous consomment à travers les différentes modalités de consommation de Radio Okapi, les plateformes digitales et aussi bien l'écoute en FM. Il y a Kai Kai qui dit par exemple, à mon avis, le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique contribuera au développement de la profession de journaliste en République démocratique du Congo. Ça c'est Kai Kai. Jeff Mufunga qui dit, il faut que notre pays puisse un peu revoir qui mettre à la tête d'un corps juridique, sinon c'est toujours les mêmes choses qui recommencent à se produire. Il y a notamment Germain qui dit, le journaliste est une personne comme d'autres personnes. La sécurité d'un journaliste, c'est le respect de la déontologie et du métier. Ça, c'est ceux qui nous ont écrit. Nous allons à présent écouter à l'intention de Charles Mushizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, également spécialiste du droit de la presse et de lutte pour la dépénalisation des délits de presse en République démocratique du Congo. Cher Charles, nous allons écouter pour vous et vous allez réagir ce commentaire qui nous vient de Kolwezi. Patrick de Kolwezi.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi de la province du Lualaba. Je ne pense pas que l'interpellation de ce journaliste soit une intimidation contre le journaliste, car ce dernier aurait publié un article sur un dossier ultra sensible qui était en instruction au niveau de la justice. Et je ne sais pas si dans la déontologie journalistique cela est permis. Et beaucoup de journalistes congolais tombent souvent dans ce genre d'infraction en voulant être le premier à parler sur un dossier sans aucune maîtrise et contour autour de celui-ci. Je pense que cela va servir de leçon à certains et la liberté de la presse ne signifie pas que nous sommes dans la jungle. Comparativement à d'autres pays, la liberté de la presse existe en RDC, ça il faut le reconnaître.
Charles Mouchizi.
Je crois qu'il faut faire la différence entre les aspects institutionnels et les aspects non institutionnels qui s'invitent à ce débat. D'abord, par rapport à l'intervenant de tout à l'heure, je voudrais lui dire qu'il faut libérer la liberté de la presse dans ce pays. Libérer la liberté de la presse, ça veut dire que faire en sorte que les autorités qui sont censées être redevables envers 100 millions de Congolais puissent accepter la critique médiatique, surtout lorsqu'elle est objective. Et ces autorités-là n'acceptent pas la critique, même lorsque la critique est objective. Libérer la liberté de la presse, c'est permettre à ce que les journalistes et les médias puissent accéder aux sources publiques de l'information. Aujourd'hui, lorsque vous allez à la Banque centrale pour faire des enquêtes sur les tendances budgétaires de l'État, les dépenses, personne ne vous accorde l'autorisation parce que le pays est géré dans l'opacité la plus totale. Aujourd'hui, si vous allez dans l'administration des affaires étrangères pour savoir que coûte l'administration des affaires étrangères dans la diplomatie du pays à travers le monde, personne ne vous donnera les informations. Il faut libérer la liberté de la presse, la liberté, le droit d'accès à l'information publique avant de commencer à condamner ceux qui ont pour travail d'informer l'opinion nationale, 100 millions de Congolais et le monde entier. Et donc les autorités ont une très grande responsabilité dans ça, commençant par le chef de l'État et le ministre sectoriel. Alors, maintenant, après, on peut dire aussi que libérer la liberté de la presse, c'est accorder des moyens suffisants pour la régulation et l'autorégulation. La régulation de médias, aujourd'hui, elle ne nous donne aucun exemple, d'un success story, comme on dit en anglais, d'un cas réussi de régulation. Et c'est très déplorable. Parce que nous sommes à une troisième expérience de la régulation de médias. Monsieur Moutinga, sous la toute première expérience, a fait de loin mieux que la deuxième expérience et même la troisième expérience. C'est pas normal. On peut juste copier les bons exemples qui ont été déjà donnés entre 2004 et 2006 par la Haute Autorité des médias. Et la Haute Autorité des médias s'était même évertuée, permise, de sanctionner les médias publics qui avait violé les principes en matière de liberté d'expression. Et nous en sommes là. Il faut que les autorités congolaises, commençant par le président de la République, puissent libérer la liberté d'expression et la liberté de presse pour que cette presse soit capable d'informer de manière à former et à informer l'opinion qualitativement, je veux dire.
Merci Charles Mouchizi. Aubert Mibakecha, coordinateur de la synergie des médias pour l'Union des forces Simouf, maison de la presse et directeur de la radio Metanoia FM à Uvira, dans la province du Sud Kivu. Pour vous, on va aussi écouter ce commentaire.
Depuis la ville de Bunia, Thomas Oubien a voté. À mon humble avis, la décision du tribunal à la condamnation de M. Stanley Boujakira, le journaliste, a été une décision purement politique parce que c'est monté de toutes pièces par la justice qui, autrefois, le chef de l'État continuait à qualifier ça de malade. Quelque part aussi, le ministère public a été incapable de démontrer devant le tribunal la culpabilité de M. Stanley Boujakira. Mais la condamnation, nous le déplorons parce que ça a été monté de toutes pièces.
Merci. Pour vous, Aubert Mibakecha, quelle est la réponse ou le commentaire à faire à cette réflexion? Aubert Mibakecha, est-ce que vous êtes avec nous? En principe, c'est Aubert Mibakecha qui aurait pu réagir à ce commentaire. Mais Gabi, même si nous allons écouter tout à l'heure la réaction qui vous était attribuée, quel est le commentaire que vous pouvez faire déjà à cet auditeur?
À cet auditeur de Bounia, les avis sont partagés là-dessus. Et d'abord, Okende lui-même était un homme politique. Il est difficile de dissocier ce qui lui est arrivé à ses activités politiques. Je comprends dans ce sens que les gens puissent faire une liaison et tout ce qui pouvait découler de cet assassinat, les gens pouvaient les lier en tout cas en fonction de leur compréhension aux événements politiques. Donc je comprends la perception de l'auditeur de Bounia qui dit que c'était téléguidé par une action politique. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez même le procès de notre confrère Stanley Boujakira Tchamala, on s'est plus inspiré du code pénal que des lois qui régissent l'exercice de la liberté de la presse. Et la loi, par exemple, je l'ai dit l'année dernière lors de la Journée internationale de la liberté de la presse, que nous n'avons pas obtenu la dépénalisation totale comme la majorité les souhaitait lors des états généraux, mais nous avons obtenu plutôt une dépénalisation partielle qui ne nous mettait pas à l'abri des ennuis. Et voilà les cas les plus éloquents. D'ailleurs, même si la loi sur la liberté de la presse de l'année dernière pouvait nous épargner, mais la loi sur le numérique, c'est une inspiration totale du code pénal congolais. C'est une inspiration totale du code pénal. D'ailleurs, cette loi n'a été rédigée que par les juristes. D'ailleurs, le fait que le ministre lui-même est initiateur de la loi, c'est un juriste, c'est une inspiration totale. Regardez la loi. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous épargner avec la loi sur l'exercice de la liberté de la presse, mais parce que toutes les rédactions aujourd'hui ont un desk digital. Donc, même les médias classiques, si vous échappez à la loi sur la liberté de la presse, mais le code du numérique va vous poursuivre. Parce que le code du numérique ne fait pas allusion, en tout cas, à l'exercice de la liberté de la presse. C'est un code totalement répressif. Et Boujakira a été jugé en fonction de ces codes. Les gens se sont inspirés du code du numérique qui lui-même est l'inspiration du code pénal pour juger Stanley Boujakira. Donc il faut assainir l'environnement politique pour que l'environnement médiatique soit aussi assaini. Autant le président de la République demande la salubrité médiatique à la presse, autant nous demandons aussi au président de la République, parce que c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, que les institutions de la République soient aussi assainies. Parce que si les institutions de l'État sont assainies, la presse n'étant pas un îlot dans une société, nous aussi, nous allons nous amender, on va emboîter les pas aux institutions de la République. Merci. Tant que les institutions de la République ne seront pas assainies, la salubrité médiatique tant exigée par le président de la République n'aura pas lieu.
Merci Gabi Kouba. Ceci nous conduit donc à conclure l'émission de ce soir par chacun de vous, sa dernière intervention. Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, également spécialiste des droits de la presse et de la lutte pour la dépénalisation des délits de presse en République démocratique du Congo. Voilà donc, comme le disions dans cette émission, de nombreuses années que beaucoup d'acteurs se battent pour obtenir que les journalistes ne soient pas conduits au tribunal pour le travail qu'ils font, qui est donc la dépénalisation de la presse. Pour le moment, on n'y est pas encore. Y a-t-il, selon vous, des chances d'y arriver un jour? Que faut-il exactement faire pour arriver à ça?
Ce qu'il faut pour arriver à ça, il faut que les gens arrêtent d'avoir des concepts trop savants du genre salubrité médiatique. Et ce mot a quelque chose d'insultant à la liberté de la presse, aux médias congolais, qui fonctionnent dans les conditions qu'on connaît. Et donc je considère que le chef de l'État n'avait pas lieu à insulter les médias en parlant de salubrité, parce que il fait en même temps donc allusion à l'insalubrité. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut parler aussi de délit de justice. Lorsqu'un magistrat du parquet arrête un justiciable, il peut le détenir pendant autant de temps qu'il pense être utile pour établir la vérité et aboutir à un non-lieu, disons, au fait non établi, et donc il l'aura établi de manière injuste. Pourtant, lui bénéficie de la présomption de bonne foi dans son instruction. Et malgré le fait que le justiciable, le citoyen honnête aura été détenu pendant autant de temps gratuitement pour rien, eh bien, il sera renvoyé de fin de toute poursuite pour rien, simplement parce que un magistrat, un individu, usant de ses pouvoirs, de ses prérogatives institutionnelles, a jugé qu'il était bon de le maintenir d'abord en captivité, avant de le relâcher plus tard sous une justification du genre « les faits ne sont pas établis ou les faits sont bénins ». Et pourquoi cette bonne foi ne peut pas être bénéfique à d'autres corps professionnels comme celui de journaliste, celui des médecins, d'ailleurs dans le domaine médical, les postes médicales qui engendrent la mort sont légion dans ce pays. Des cas d'intervention chirurgicale et sur fond de faute ont privé des familles entières de leurs membres. Et donc à un certain moment, je crois qu'il faut qu'on ait le courage de regarder les choses comme interagissantes et de proposer des réformes qui puissent être à même de remonter la société en lieu et place de baisser tout le temps, le niveau de la qualité de notre liberté de critique des médias, sachant que sans les médias, sans la liberté de critique, sans la liberté de recherche pour ces médias-là, il n'y a aucune assise démocratique possible. Aucune.
Merci.
Aucune.
Merci.
Et donc aujourd'hui, on peut aussi parler des délits de justice. Merci. Pour les magistrats qui détiennent et pour en venir à une décision de relaxation ou de libération tout simplement, parce que les faits n'ont pas été établis, alors qu'ils auraient été plus avisés dès le départ que ces faits-là étaient de nature à ne pas être établis pour ne pas inutilement priver de la liberté à un individu innocent.
Merci Charles Mouchizi, je considère ça donc comme votre dernier mot. Aubert Mibaketcha, coordinateur de la synergie des médias pour l'Union des Forces Simouf, maison de la presse et directeur de la radio Metanoia FM à Ouvira. On a eu des difficultés tout à l'heure à vous garder au téléphone. Est-ce que vous êtes là? Il n'est pas revenu, merci. Nous remercions Neville, notamment de Kinshasa, qui nous a aussi envoyé sa réaction à cette émission. Il dit parfois les décisions de la justice doivent être louables. À mon humble avis, regarder la justice avec un regard sinistre n'est pas encourageant. Nous terminons cette émission avec vous, Gabi Kouba, président de l'Union nationale de la presse du Congo. L'objectif attendu, la dépénalisation de la presse en RDC, tarde à venir. Un peu la même question que celle de Charles tout à l'heure. Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire et que faut-il exactement faire pour atteindre cet objectif?
Je vais répondre à cette question un peu comme un philosophe pour dire que la dépénalisation, c'est cet horizon-là qui est toujours fuyant mais jamais totalement atteint. Nous en parlons. C'est vrai, quand on dit la dépénalisation, les gens ont l'impression, parce qu'il y a des esprits reclus avec autant de pesanteur, qui pensent que la dépénalisation donnerait une carte blanche à l'indiscipline ou à la délinquance médiatique. Et c'est vrai que la délinquance médiatique, on ne peut pas le nier. Elle existe dans notre presse. Il faut le dire clairement. Et parfois, il y a des actes qui traduisent la démence dans notre presse. Mais cela ne doit pas nous faire peur. Parce que si les lois et les textes de la République sont respectés à l'être par toutes les parties, il y a lieu d'endiguer cette délinquance dans les médias. Et le Congo, c'est un pays qui à chaque fois fait un pas en avant et dix pas en arrière. Donc cette question, nous devons tous conjuguer des efforts pour qu'un jour on y arrive.
Merci Gabi Kouba, Kelly Nkoute, Jonathan Fouanani, Hervé Voka, Clément Chimanga, Paul Badianyama et Hippolyte Kapanga m'ont aidé à produire cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.